France Culture.
Et les midis reprennent la route. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure à 13h, je recevrai le ténor Péné Paty. Mais tout de suite, c'est le moment du Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. À partir de demain et jusqu'au 3 mars, la Fondation Jérôme Sédou Pathé propose une carte blanche aux Archives Nationales du Film de Géorgie et dévoile ainsi un chapitre méconnu de l'histoire du 7e art, le cinéma muet géorgien. Alors cette rétrospective démontre la vitalité d'une production qui, dès la fin du 19e siècle, a fait de la Géorgie l'un des foyers les plus créatifs de la production cinématographique, et ce même sous l'ère soviétique. Sophia Biabluani, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes réalisatrice et chercheuse à l'EHESS et vous représentez la Géorgie pour le fonds Eurimage. Alors cette rétrospective à la Fondation Pathé consacrée au cinéma muet géorgien, c'est du 4 février au 3 mars. On va pouvoir y découvrir une vingtaine de films. Qu'est-ce qui rend selon vous le cinéma muet géorgien si singulier par rapport aux autres cinématographies de l'époque ?
Je vous remercie de nous inviter pour parler de cette rétrospective, qui est une rétrospective d'une ampleur absolument inédite. Le cinéma arrive très tôt en Géorgie, de 1896, après la projection de Frères Lumière au boulevard de Capucine. Quelques mois après, le cinéma arrive en Géorgie. À Tbilissi, il y a des projections, il y a tel engouement qu'on ne trouve plus les places pour voir des films. Et puis les journaux de l'époque racontent qu'il était plus facile de trouver la place à l'opéra que de pouvoir assister à une projection. Et très vite, il y a des salles de cinéma qui ouvrent. De 1904, il y a déjà des premières salles. Donc les salles comme avec des noms Odéon, un Moulin électrique, Saturne. Et le cinéma géorgien deviendra un vrai foyer très singulier de la production de cinématographique soviétique.
Alors justement, quand on regarde ces films, on pense évidemment au cinéma soviétique. Moi, ça m'a fait quand même beaucoup penser à Eisenstein, au cuirassier Potemkin par exemple. Mais la Géorgie a sa propre identité cinématographique. Comment les cinéastes géorgiens ont-ils justement négocié entre l'expression de leur culture locale et les exigences du pouvoir soviétique ?
Alors cette question est très intéressante. Parce que le cinéma est arrivé en Géorgie donc déjà avant l'arrivée de l'URSS, et donc sous le régime de Tsar. Et c'est intéressant de situer la Géorgie déjà, elle était sous la domination russe de 1801. Donc, quand le cinéma arrive au début en Géorgie, les premiers réalisateurs voient dans l'outil cinématographique un outil de la transmission de la singularité culturelle qui était en train de disparaître sous la domination étrangère. Et d'où le premier film documentaire long métrage de 1912 de Vassila Mashoukeli, dont on présente l'extrait dans la rétrospective. Ça serait le premier portrait d'un poète filmé. Donc c'est le voyage de Akaki Tsereteli dans Ratchalechroumi, qui est une région montagnarde de la Géorgie. Et on voit le poète rencontrer son peuple. Alors la singularité du cinéma géorgien vient aussi de la présence de la culture géorgienne. Ça serait les danses, les chants, la culture orale, des transmissions d'histoire, il y a des fresques. Tout ça est très présent dans le cinéma géorgien. Donc on voit comment le peuple accueille le poète, qui est un porte-parole du peuple en quête de l'identité et de la liberté. Et dans ce film, on découvre justement cette côté des traditions et on découvre les coutumes. Et je pense que ces réalisateurs qui travaillent de très très près avec l'avant-garde russe, Mayakovsky vient en Géorgie, les réalisateurs comme Nicolas Shingelaya sont très amis et très amis avec lui, ils échangent les idées de gauche, même si la Russie est un envahisseur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire de la Géorgie est intimement liée à l'histoire du cinéma géorgien. Donc l'avant-garde russe a l'influence sur l'avant-garde géorgienne et puis il y a un vrai échange des artistes.
Alors vous parliez des thématiques de ce poète, on sait à quel point la poésie est importante dans la culture géorgienne, mais également des traditions locales, des costumes aussi, c'est ce qu'on voit dans ces films-là. Mais est-ce qu'il y a une manière particulière de filmer ces thèmes-là ?
Alors ce qui est très intéressant, il y a un côté très anthropologique. dans la façon d'approcher ces images. Et je pense que les réalisateurs avaient un vrai plaisir de découvrir ces singularités des régions aussi, à travers les costumes, à travers la façon de vivre, parce qu'il faut imaginer aussi qu'à cette époque-là, au début du cinéma, la ruralité en Géorgie est encore très très présente. Les écrivains écrivent sur les paysans et les réalisateurs, ils découvrent cette vérité comme ça de rurale et puis la vérité des paysans.
Parmi tous les films qu'on va pouvoir découvrir pendant cette rétrospective, il y en a un qui est signé par une réalisatrice.
Alors oui, effectivement, c'est la première réalisatrice géorgienne, mais peut-être pas que géorgienne, parce que dans l'histoire de l'Union soviétique, on est en train de revoir, et puis on constate peut-être que Noutar Orobeldé serait la première réalisatrice soviétique. Et sous Staline, disons comme ça, les réalisateurs d'avant-garde qu'on présente dans cette rétrospective auront des destins très différents. Par exemple, Noutar Orobeldé, elle sera déportée. Sa façon très libre, comme ça, d'approcher les sujets ne correspond pas vraiment avec les valeurs soviétiques. Entre autres, le réalisateur comme Kotay Mika Belidze, qui est le réalisateur de Ma grand-mère, qui est un film, un chef-d'œuvre de l'avant-garde soviétique. Lui aussi, il connaîtra un destin très triste parce qu'à la sortie du film, son film « Ma grand-mère » sort en 1929. Et 1928, la partie communiste adopte la loi, une sorte de règle que le cinéma doit être très didactique, très clair et compréhensif pour tout le monde. Donc, ils appellent vers le réalisme social. Et quand « Ma grand-mère » sort, c'est un film, une satire acerbe, qui critique, qui caricature comme ça la bureaucratie et la paresse du système, avec un travail formel absolument virtuose et puis d'une énorme créativité. Il utilise l'animation, il utilise le stop motion déjà à l'époque dans le film et avec un aboutissement absolument jouissif. Mais quand le film sort, il est accusé d'un formalisme bourgeois. Donc l'avant-garde, de 10 premières années de l'avant-garde sont, et de la liberté sont finies. La partie serre le boulon et là, Mika Belidze, il devra écrire une lettre pour s'excuser pour son chef-d'œuvre d'avoir un peu péché contre la partie et ça entravera toute sa carrière future. Il ne pourra plus jamais faire un film avec une totale liberté. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que les réalisateurs, par exemple, comme Mikhail Tchiaureli, qui est le réalisateur de Khabarda, qu'on présente également dans la rétrospective, c'est un réalisateur préféré de Staline. Donc tous les réalisateurs n'auront pas le même destin. Khabarda, il parle de rencontres de l'ancien monde, des intellectuels pervertis, bourgeois, qui s'accrochent au patrimoine. Et c'est une confrontation avec l'homme soviéticus, cet ouvrier qui arrive et qui veut donner la justice aux plus démunis. Et c'est cette rencontre, cette clash entre deux façons de voir le monde ancien et le monde nouveau. Mais le film est un tel plaisir à découvrir. Et puis le montage transcende complètement l'idéologie. Et c'est drôle, c'est beau. Et puis c'est vraiment une leçon de cinéma assez incroyable. Oui.
Bien, merci beaucoup Sophia Babluani. Donc cette rétrospective se poursuit jusqu'au 3 mars à la Fondation Pathé. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, suite à des révélations dans l'affaire Epstein, Caroline Lang vient de démissionner du SPI, le syndicat de la production indépendante.
Oui, s'appuyant sur des documents de la justice américaine, Mediapart vient en effet de révéler dans une enquête certains liens entre la fille de Jack Lang et Jeffrey Epstein. Elle a créé en 2016 une société offshore avec l'homme d'affaires américain dans le but d'acquérir des œuvres d'art, bien qu'elle assure n'avoir reçu aucune rémunération de la part de ce fonds. Caroline Lang a préféré démissionner de son poste de déléguée générale du SPI afin d'éviter que ces révélations ne viennent entacher la réputation du syndicat.
Et pour finir, Marie, à l'âge de 90 ans, le Dalai Lama a remporté un Grammy Award.
Et oui, le chef spirituel de la communauté tibétaine a enregistré l'an dernier un livre audio intitulé « Méditation, réflexion de sa sainteté, le Dalai Lama », disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Cette œuvre lui a permis de recevoir le Grammy du meilleur livre audio, une récompense créée en 1959. Absent lors de la cérémonie, le Dalai Lama a néanmoins exprimé sa gratitude en déclarant, je le cite, « Je ne considère pas cette récompense comme un honneur personnel, mais comme une reconnaissance sens de notre responsabilité universelle commune.
Bien dit.
Merci. Ça donne envie de l'écouter.
Oui. Merci Marie. On se retrouve
demain
pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h. Vous écoutez France Culture.